Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Cette semaine, sur le premier épisode de Commerce Élite, plusieurs sujets chauds sont au rendez-vous. On discute en entrée du partenariat entre Shopify et JD construit pour faciliter la vente de produits en Chine. Twitter lance une solution afin d'aider les consommateurs dans leur shopping et Pinterest suit la vague. On termine le podcast avec un entretien du propriétaire de CaseMe, William Giraud, qui nous parle de marketing d'influence. Bonne écoute! Une première news aujourd'hui de eMarketer, qui est un cabinet de recherche qui fait des rapports notamment sur le numérique et le e-commerce. Récemment, ils ont sorti leur dossier Global Commerce Forecast, un papier de 16 pages que je vais vous résumer. Premier constat ici, le e-commerce mondial va passer pour la première fois de son histoire la barre de 5 trillions de dollars, et ce, 2 ans après d'importantes augmentations. Ceci s'explique notamment avec la COVID, les confinements et l'explosion des achats en ligne. On nous dit tout de suite que le pourcentage de croissance va prendre une courbe plus plate, mais toujours en hausse. Pourtant, pour 2022, ça représente quand même 603 milliards de plus que l'année 2021. eMarketer nous donne quelques raisons à cette plus faible croissance et elle repose particulièrement sur le mobile. Déjà sur le marché européen et nord-américain, le shopping sur mobile a atteint, et je cite, un niveau de confort et il semblerait que pour finaliser l'achat, on préfère passer par un ordinateur. Dans les marchés émergents, l'accès à Internet et au téléphone portable est devenu bien plus commun. On observe moins de nouveaux utilisateurs qui commencent leur shopping sur mobile. Cependant, ça reste que les pays qui vont connaître la plus forte croissance du domaine seront pour beaucoup en Asie. On trouve sur les 3 premières places les Philippines, l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam en 5e place. Car la 4e est occupée par le Brésil, seul pays hors Asie qui est d'ailleurs souvent un territoire de test pour la plateforme Meta. Le sud-est de l'Asie et l'Amérique latine sont les seules régions à connaître une augmentation d'au moins 20% dans les ventes cette année. L'Europe de l'Ouest atteindra 6,1% de croissance, la plus basse de l'année, et ne verra jamais une croissance à 2 chiffres jusqu'en 2025. L'Amérique du Nord, quant à elle, affiche un 15,5% de croissance. De cette façon, l'étude prévient que pour atteindre des nouveaux clients, il est plus judicieux de viser les pays en croissance, plus ouverts que les pays très avancés technologiquement, dont les acheteurs sont constamment bombardés d'offres. Forcément, ça veut dire que la compétition va être toujours plus rude pour les marchés e-commerce matures afin de s'établir sur une nouvelle audience. Ce qui me fait penser à une nouvelle de mi-janvier 2022 qui concerne Shopify et la Chine, et plus particulièrement de JD.com qui est un des plus gros e-commerce du pays en volume de transactions et de revenus. C'est le concurrent numéro 1 de Alibaba pour ainsi dire. Eh bien, pour les Shopify US, il est possible de vendre leurs produits directement en Chine via la plateforme JD.com et ce, depuis leur propre site Shopify. Sur la vidéo de présentation, il suffit de connecter l'application JD Marketplace depuis le Shopify Store, se créer un compte et synchroniser votre boutique. Automatiquement, le texte sera traduit et les prix convertis dans la monnaie appropriée et les taxes seront appliquées. Il ne restera plus qu'aux marchands à envoyer leurs inventaires dans des dépôts JD en Chine pour être redistribués sur place. Une connexion très intéressante parce qu'elle va permettre aux e-commerçants américains de s'ouvrir à un nouveau marché avec beaucoup moins de barrières logistiques. Shopify estime qu'habituellement 12 mois sont nécessaires pour des marques étrangères avant d'être opérationnelles en Chine, alors qu'avec cette solution, c'est seulement quelques semaines. Pour JD, c'est une nouvelle source de croissance car il proposera des produits que AliExpress n'aura pas de son côté. Autre nouvelle, pas si anodine que ça, Twitter Shop. C'est la nouvelle fonctionnalité du géant social. Les annonceurs pourront, depuis leur page, proposer une collection de 50 produits. Il n'est pas possible pour le moment d'acheter directement sur la plateforme. C'est davantage une fonctionnalité pour montrer vos produits et renvoyer vos clients aux endroits appropriés sur votre site web afin de compléter la transaction. Évidemment, c'est un test qui n'est opérationnel qu'aux États-Unis pour des utilisateurs basés sur le territoire. Au niveau de l'interface, ça ressemble, si vous faites des annonces sur Facebook, au format collection d'une campagne de publicité dynamique. Mais Twitter n'est pas le seul à se lancer dans le commerce. Way before shoppers even know how to describe what they're looking for, they find it on Pinterest. C'est ce qu'on peut lire dans le récap officiel du Pinterest Presence 2022. Parce que c'est passé un peu sous les radars, mais oui, Pinterest a organisé son 2e événement en ligne et l'une des fonctionnalités annoncées était aussi Your Shop. un onglet qui vous propose des recommandations d'achat. Your shop is built for you and no one else. La promesse est intéressante dans l'optique où Pinterest se positionne comme la plateforme pour chercher des inspirations. Elle vous propose à présent de rassembler les produits d'annonceurs et créateurs indépendants dans une seule et même proposition. Ajoutez à cela la fonction Merchant Details qui vous donne quelques informations essentielles sur l'annonceur du genre. Est-ce que ce produit est éco-responsable? Est-ce que l'entreprise est inclusive? Quelles sont les valeurs? Etc. Parce que l'achat est aussi un choix politique et social et Pinterest veut faciliter le tout. Et on ajoute à ça la possibilité d'acheter directement sur la plateforme. C'est officiel, mais c'est toujours en test présentement aux États-Unis. Le marketing d'influence est un des quatre piliers qu'on considère primordial chez Pure Commerce quand on veut passer de commerce en ligne à commerce élite. On le sait, les coûts en publicité augmentent. La capacité de ciblage n'est plus aussi puissante qu'avant et l'écosystème numérique évolue. Bref, tout ça mis ensemble nous oblige à ouvrir nos yeux sur d'autres approches marketing. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, avez-vous utilisé de la meilleure manière possible le marketing d'influence pour votre boutique en ligne? Avez-vous un système mis en place vous assurant de générer des revenus mois après mois? Si tout ça est nouveau pour vous, pas de souci car les 20 prochaines minutes sont exactement faites pour vous instruire sur le sujet. William Giroux, fondateur de l'entreprise CaseMe, va nous partager le plan étape par étape qu'il met en place avec son entreprise afin de générer des centaines de milliers de dollars mois après mois avec le marketing d'influence. Sortez vos carnets de notes car l'information de haute qualité va pleuvoir. Mon nom est Antoine Gagné et je suis très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour le premier épisode de notre tout nouveau balado intitulé « Commerce élite ». À chaque semaine, on s'entretiendra avec un acteur influent du commerce en ligne qui nous présentera une approche tactique que vous pourrez rapidement mettre en place avec votre entreprise. Et c'est William Giroux, président et cofondateur de l'entreprise CaseMe, qui me fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier épisode. William, merci d'être sur le podcast « Commerce élite » aujourd'hui.
Merci pour l'invitation, mon ami.
Et William, on va dévoiler à nos auditeurs la stratégie détaillée que CaseMe a employée depuis 6 ans maintenant avec son marketing d'influence. Mais avant de parler tactique, peux-tu situer l'audience aujourd'hui sur les chiffres de vente de CaseMe depuis son lancement?
Absolument. De notre côté, on a lancé CaseMe en 2016. Puis je dirais que les deux premières années ont été plus relaxes. Mais après ça, on a pris une vitesse de croisière un peu plus accélérée. L'année 1, je crois qu'on a terminé autour de 640 000. Deuxième année, 1,4 million. Après ça, année 3, on s'est rendu à 4,2. Année 4, à 7,4. Et cette année, on vise un 10 millions de chiffre d'affaires.
Wow! Donc, 10 millions de chiffre d'affaires pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Bien entendu, CaseMe, vous êtes très fort en publicité numérique. Vous investissez des montants qui sont importants, mais je pense que la base, et c'est ce qu'on va discuter ensemble avec notre audience aujourd'hui, la base de votre marketing a tourné autour du marketing d'influence et c'est ça que je veux qu'on discute et qu'on explique à l'audience aujourd'hui. William, comment vous vous êtes pris? Quelle stratégie vous avez mis en place pour vraiment arriver à des résultats avec votre marketing d'influence qui sont assez phénoménales? J'ai la chance d'avoir les chiffres devant nos yeux. On parle de gifting, on parle d'affiliés. Peux-tu donner un petit peu de contexte à l'audience aujourd'hui? Comment vous avez structuré cette stratégie de marketing d'influence selon les différentes catégories?
Absolument. Le monde du marketing numérique évolue tellement vite. Si on revient à 2016, je sais pas si tu t'en souviens bien, mais tu sais, Instagram au Québec, oui, c'était populaire. Mais tout le côté d'influenceur, c'était un concept qui n'était pas encore très établi. Nos voisins américains, eux, commençaient à l'utiliser depuis déjà quelques années. Donc, c'est ça, nous, quand on a lancé en 2016, ben un des trucs les plus difficiles, c'est de partir ton compte Instagram avec 0 abonné, puis d'aller chercher justement une croissance là-dessus. Nous, quand on a lancé notre Shopify Store, on s'est dit que la technique qu'on a utilisée en premier était le marketing d'influence. Donc, je dirais que la première grosse collaboration qu'on avait faite, c'était avec une demoiselle qui s'appelle Andréane Marquis, qui avait fait Occupation Double dans le passé. Puis c'est la première qui avait cru en nous, puis on a décidé de faire un concours avec elle, tout simplement. Les répercussions de ça ont été excellentes, non seulement en termes de following, mais également en termes de vente directe. Après ce test-là, ben, on s'est décidé d'ouvrir la machine pour utiliser cette technique-là un peu plus d'une façon un peu plus chirurgicale là, pour les années suivantes. Puis au fil du temps, ben au début, c'était carrément moi qui étais dans les DMs en train d'envoyer des messages du compte de Case Me à différentes personnes. Puis c'est ça, au fil du temps, on s'est amélioré autant dans l'approche humaine. Donc nous, on mise, oui, sur le marketing d'influence, mais on vise surtout des relations à long terme avec ces différentes personnes-là. Il y a beaucoup trop de brands, que ce soit au Québec ou peu importe dans le monde, qui utilisent ça de façon chiffrée, puis qu'ils envoient des messages, c'est super froid comme approche, puis que les influenceurs, justement, se sentent comme des numéros plutôt que des collaborateurs. Donc, nous, c'est complètement l'inverse, en fait. On bâtit une relation de A à Z avec ces gens-là. Puis, il y a beaucoup de personnes avec qui qu'on travaille encore aujourd'hui, que ça fait depuis nos débuts qu'on est avec eux. Donc, autant que leur communauté a pu grandir au fil du temps, comme la nôtre.
Puis, tu me disais dans des discussions préalables, William, vous envoyez près de 150 étuis à des influenceurs à travers le Canada, les États-Unis à chaque mois. Vous avez des stratégies reliées au niveau des affiliés, au niveau des artistes également. Peux-tu nous parler un petit peu de comment vous faites ce choix-là d'artistes, de gens à qui vous pourriez envoyer vos produits pour que, ultimement, ces mêmes personnes puissent en parler avec leur communauté?
On a vraiment commencé, je dirais, avec la partie gifting. C'est-à-dire que les 150 influenceurs que tu parles, c'est simplement un échange de produits. Donc, on les approche, on leur dit que leur contenu est vraiment en lien avec nos valeurs, notre style, etc. Puis, pour ce gifting-là, nous, on vise vraiment des gens entre 1000, 2000 abonnés jusqu'à du 10, 15, 20 000 selon les limites de chacun. Parce que la réalité d'aujourd'hui versus ce qu'on visait auparavant, c'est que les gens, il y a beaucoup de ces personnes-là qui vivent de ça maintenant. Donc, demandent une rémunération upfront pour la production de ce contenu-là. Mais reste que, considérant que maintenant on est suivi par plus de 190 000 personnes sur Instagram, ben, il y a quand même un échange qui peut se faire à ce niveau-là, que nous aussi, on va leur donner de la visibilité. C'est ça, tu sais, maintenant, on fait à peu près 150 influenceurs par mois, puis pour 2022, on veut vraiment frapper fort là-dedans, on veut jusqu'à doubler ce chiffre-là. Puis pour situer un peu l'audience, là, pour nous, la partie gifting, ça représente à peu près entre 10 et 15 000 $ de revenus mensuellement. Puis sinon, ben, de parler des affiliés, des artistes, je pourrais commencer avec la partie artiste. Nous, c'est une décision qu'on a prise en interne parce que notre modèle d'affaires nous permet de pouvoir créer des designs 100% personnalisé. On produit nos étuis en juste à temps. Donc, nous, on n'a pas d'inventaire de base. On imprime puis on cuit les étuis sur commande. Fait qu'à un moment donné, on se disait, ben, comment on peut, de un, avoir plus grande quantité de design avec des styles qui diffèrent de ceux que nos designers graphiques à l'interne peuvent faire. Donc, on s'est dit, pourquoi pas approcher des artistes qui ont déjà des bons followings, qui sont connus dans différentes villes canadiennes pour vraiment faire une collaboration avec eux. Donc, on a créé une page de collection carrément. C'est la collection artiste. On travaille avec 4 artistes à chaque mois. Puis, chaque artiste ont chacun 2 designs. Donc, on a 8 designs qui sont constamment en rotation. Puis, avec eux, on fait carrément signer un contrat. Puis, c'est une collaboration qui dure 2 mois précisément. Puis, nous, dans le fond, la façon qu'on rémunère ces artistes-là, c'est qu'on leur donne des royautés sur chaque vente générée. Donc, ça ressemble à ça.
Puis, juste pour être certain, là, mettons, demain matin, je suis un commerce en ligne, je voudrais faire cette même approche-là. Pour le gifting, je pense que c'est assez clair. On fait vraiment un échange ici de visibilité, comme tu le mentionnais un petit peu plus tôt. Mais le volet artiste, j'aimerais m'y attarder un petit peu plus. Donc, eux vont faire des concepts, littéralement, qui ultimement vont être des produits qui vont être vendus. Mais comment ces produits-là sont vendus au niveau de la commercialisation? Est-ce que c'est uniquement sur votre site web ou également avec les audiences de ces artistes-là, il va y avoir des partenariats qui vont être faits? Comment tout ça se déroule?
Ben oui, définitivement que le gros des ventes se font directement sur notre site, mais considérant le fait que ces artistes-là ont déjà leur communauté, ben le but, c'est d'aller chercher une partie de leur communauté pour les activer, leur dire « Hey, t'aimes tel produit de en fait, t'aimes tel style de ton artiste, ben tu peux maintenant te procurer un étui créé par cet artiste-là. Ça devient comme des pièces d'or. En fait, tu sais, on est habitué d'avoir des cadres à la maison, mais des gens qui trippent vraiment sur certains types d'artistes, ben aiment ça les avoir dans leur quotidien. Donc, pour nous, ça a été une façon de faire. Puis sinon, ben on est aussi vendu dans plus de 150 points de vente à travers le Canada. Puis on donne l'option à nos retailers de pouvoir acheter aussi des étuis de ces artistes-là. Puis on les vend avec un prix premium. Fait que pour considérer en fait les royautés qu'on donnerait normalement pour une vente e-commerce, ben on fait la même chose au niveau retail. Fait que ça leur donne vraiment une visibilité autant numérique que physique à ce niveau-là.
Puis ces artistes-là changent à chaque mois?
Ouais, exact.
Oh wow!
Puis justement, récemment, ma collègue Laurence, qui est avec nous depuis 4 ans, c'est elle qui s'occupe de ça à 100%. Puis elle nous a fait un résumé des ventes de l'année dernière. Puis si je peux vous donner des chiffres, là, les revenus mensuels générés par les collaborations avec ces artistes-là, ça représente à peu près entre 30 et 40 000 $ par mois. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, le dernier morceau que tu as mentionné étant les affiliés, ça, c'est un nouveau concept. Ben, en fait, c'est pas un nouveau concept, mais nous, c'est un nouveau concept qu'on utilise à l'interne. Celui-ci, c'est pour vraiment mettre de l'avant des créateurs de contenu avec qui qu'on travaille justement sur une base régulière, des gens qui ont un plus gros following aussi. Ça fait qu'habituellement, pour des affiliés, on vise du 100 000 abonnés et plus. Mais c'est vraiment des gens qui vivent la marque, qui sont des bons ambassadeurs pour Case.me depuis 1, 2, 3, 4 ans. Puis c'est des personnes avec qui qu'on va créer un design de toute pièce.
Donc, ton programme d'affilié m'a l'air assez fascinant, impressionnant même. Es-tu capable peut-être de nous donner un exemple, situer un petit peu l'audience de comment tout ça se met en place?
Oui, dans le fond, c'est un concept qui existait déjà, mais nous, on l'utilise depuis à peu près 4 mois. Puis, pourquoi qu'on a décidé d'aller de l'avant avec ça, c'est qu'on se disait, on est prêt d'utiliser en fait des dollars en publicité via Facebook Ads ou peu importe les plateformes publicitaires. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas considérer le coût par acquisition, donc le CPA qu'on serait prêt à payer via une plateforme numérique pour plutôt le donner à un créateur de contenu. Donc, c'est des gens avec qui on travaille depuis souvent plusieurs années puis qu'on leur fait vraiment un design de toute pièce avec nos designers graphiques. Récemment, je pense qu'on travaillait avec Claudie Mercier, Alexandra Larouche, Sarah Couture, qui sont toutes quand même des grosses pointures au Québec en termes d'influence. Puis eux, dans le fond, le deal qu'on a avec eux, c'est pour chaque vente qu'ils génèrent avec le code promo qu'ils partagent à leurs audiences, il y a un montant fixe qui est attribué à chacune de ces ventes-là. Donc pour eux, à chaque mois, ils peuvent faire des revenus avec nous.
Oh wow! Donc là, on va essayer de situer un petit peu l'audience aujourd'hui là, pour qu'ils comprennent un petit peu la stratégie macro de Case.me. Donc on le dit au départ de l'entretien, cette année Case.me va faire 10 millions de chiffres d'affaires à l'année. Donc vous comprenez que ce sont des joueurs sérieux. Ils sont des joueurs sérieux dans l'industrie au niveau du commerce en ligne. Stratégie de marketing d'influence qu'on pourrait considérer de sophistiquée selon 3 segments. Le gifting, où est-ce qu'il va avoir un échange de visibilité entre le compte de Case.me et bien entendu le compte de l'influenceur. Travailler avec des affiliés comme William vient de nous dire, où est-ce que ces derniers vont avoir un code promo à chaque vente qui va être générée. Par la suite, la technique que je préfère, que je trouve la plus innovante des trois, celle de travailler avec des artistes et de voir l'étui à téléphone comme une pièce d'or, littéralement, qui va pouvoir se vendre à la communauté, encore une fois, de l'artiste. Donc là, on comprend, William, les points macro de votre stratégie. J'aimerais maintenant rentrer dans le volet un petit peu plus au niveau de l'exécution, parce qu'il y a beaucoup de commerces en ligne qui nous écoutent aujourd'hui, qui comprennent ces points-là, mais qui voudraient savoir peut-être un plan de match étape par étape. Tu nous mentionnais en intro qu'au départ, c'est toi qui envoyais des messages privés à des influenceurs. On doit commencer quelque part, mais ultimement, on doit industrialiser notre approche. Quels sont les outils maintenant que vous utilisez pour, un, entourer ces influenceurs qui pourraient être utiles pour votre entreprise, et deux, pour par la suite leur envoyer des messages? C'est manuel? Est-ce qu'il y a une manière peut-être plus rapide que vous utilisez?
Bien, au fil du temps, on a testé différents logiciels, différentes approches. Puis depuis la dernière année, je dirais qu'on est revenu à la bonne vieille méthode d'un chiffrier Excel. Je t'explique pourquoi. On a travaillé avec une plateforme aux États-Unis qui s'appelle Grin, G-R-I-N, qui vient aider surtout pour la recherche des influenceurs. Parce qu'à un moment donné, au Québec, exemple, tu fais le tour assez vite des différents comptes qui peuvent vraiment bien fitter avec ton brand. Donc, tu sais, préalablement, faut que tu fasses une étude de, OK, c'est qui les personas qu'on vise, puis de vraiment s'associer avec des influenceurs qui parlent à ces gens-là. Mais tu sais, actuellement, je dirais, en fait, on a commencé que c'était moi, justement, qui envoyait les messages. Par la suite, on avait engagé une personne à temps partiel pour s'occuper de ce département-là. Après ça, on a engagé même quelqu'un à temps plein. Puis actuellement, on a une personne et demie. On va avoir bientôt deux personnes à temps plein qui vont s'occuper à chaque semaine, en fait, de générer les différentes collaborations qu'on fait. Puis, comment faire pour s'assurer qu'il y a une performance liée à ces collaborations-là, c'est vraiment de venir mesurer en temps réel. Donc, nous, à chaque mois, Marjorie, qui est celle qui s'occupe de notre département d'influence actuellement, fait vraiment un tracking de toutes les ventes qui sont générées. Puis, dans le calcul, on calcule autant le temps à Marjorie, on calcule le coût de l'étui que ça nous coûte en production. Puis, ensuite de ça, on analyse tous les codes promo qui sont utilisés. Donc, on a vraiment un code promotionnel par envoi. Puis, avec ça, une fois par mois, on fait le décompte de, OK, on a eu 150 influenceurs ce mois-ci, voici le montant généré, moins le coût de production, le coût de main-d'œuvre, etc. Puis, on est capable d'aller chercher un certain coût par acquisition, un peu comme en publicité numérique.
Et puis c'est quoi les ROI acceptables que vous acceptez? Parce que faut le dire à l'audience aujourd'hui, vous avez un produit qui est très sensible au bouche à oreille, c'est-à-dire les gens vont voir un étui Case Me, très rapidement par la suite on peut avoir envie d'en avoir un également, donc clairement il y a cette émulation-là qui peut se créer quand votre produit se retrouve dans les mains d'un consommateur. Donc peut-être que vous acceptez de perdre de l'argent sur la première transaction parce que vous comprenez la valeur long terme qu'une transaction peut vous générer. Ceci étant dit, maintenant, quels sont des ROI acceptables chez Case Me quand vous faites ce décompte-là à la fin du mois?
Tu sais, on vise tout le temps de minimum break-even sur les dépenses qui ont été générées, mais en général, on est capable de générer des profits là-dessus aussi. Précisément, là, en termes de ROI, je pourrais plus te parler en termes de coût par acquisition, là, mais on vise tout le temps un coût par acquisition autour de 15 à 25 $ par influenceur. Bien sûr, on fait une moyenne au bout du compte, puis il y en a qui vont générer zéro vente, il y en a qui vont en générer 20, mais tu sais, en moyenne, ça peut ressembler à ça. Donc, voilà.
Puis ça inclut bien entendu le salaire de la personne qui fait le message, le coût de l'étude. Donc on s'entend à la fin là, c'est vraiment toutes dépenses confondues, le coût par acquisition de 15-20 $. Donc pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, j'adore cette approche-là. Je pense que c'est un truc, une tactique qu'on peut mettre en place très rapidement. Question maintenant que je te pose avec ces différents influenceurs, combien de contenu en moyenne vont-ils te créer? Donc disons on prend un influenceur Y, vous allez avoir une discussion, une collaboration va se faire. Est-ce que c'est uniquement un contenu, deux contenus? Est-ce qu'ils vont avoir envie d'en faire plus, sachant qu'il y a une rémunération reliée à ça? Comment ça se matérialise tout ça?
En mode gifting, on n'a pas vraiment d'attente. T'sais, on leur donne des guidelines du genre, soit tu crées des stories, soit tu crées une publication organique. Mais en général, je dirais que les gens vont créer de 2 à 3, 4 pièces de contenu. Selon la qualité du contenu qu'on va recevoir, la vitesse d'exécution de la personne, puis des ventes qui vont être générées suite à leur code promotionnel, nous, on se fait une liste qu'on les appelle les Case Me VIP. Puis ces gens-là, ben on les rentre ensuite dans notre machine, c'est-à-dire qu'on leur prend leur courriel à chaque fois qu'on a une nouvelle collection ou un nouveau produit qu'on lance. Toute cette partie-là est automatisée. Donc, on envoie un genre de newsletter, puis on demande seulement à la personne « Hey, voici la nouvelle collection, si t'es intéressé, fais simplement nous répondre quel design que t'aimerais, confirme-nous ton adresse, ton type de cellulaire, merci, bonsoir. » Puis nous, comme ça, à chaque fois qu'on a des collections, on a des commandes déjà préalables.
Non, mais clairement, ça répond à la question. Donc, le nombre de contenus qu'ils vont faire, vous avez pas tellement d'attentes, mais habituellement, tu es capable de voir qu'en moyenne, ça va être 2 à 3 contenus. Dernière peut-être question que je te poserai avant de conclure la conversation, William. Tu le dis, chacun des influenceurs vont avoir des codes promo. Ça vous donne la possibilité de comptabiliser les ventes qui sont faites, de calculer vos retours sur investissement. Quelles offres allez-vous faire habituellement? J'imagine que vous avez beaucoup de data que vous avez accumulé à travers les années. Quelles sont des offres fonctionnelles que vous vous êtes dit, on va les répéter dans le futur? Et peut-être d'un autre côté, quelles ont été les offres qui ont moins fonctionné?
Quand tu dis des offres, tu veux dire quoi exactement?
Des promotions reliées aux codes promo.
OK. Ben, en moyenne, je dirais qu'on, c'est tout le temps un code promo de 10 % de rabais. C'est la base qu'on utilise. Ensuite, en fonction peut-être des pics de production qu'on peut avoir dans une année, ben, il y a des périodes qu'on va être un peu plus agressif avec la promotion. Donc, on peut se rendre à 15 %. Des fois, ça va être un free shipping carrément qu'on demande aux gens de mettre de l'avant. Fait que je dirais que ça varie, mais en moyenne, c'est pas mal toujours un 10 % de rabais, là.
Parfait. Puis, dernière question que je te poserai. Est-ce qu'il y a des offres que vous avez testées, des promotions que vous avez testées qui, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont un commerce en ligne et qui sont en train de se poser des questions sur quelle promotion qu'ils pourraient faire avec un influenceur que vous ne conseillez pas, que vous avez testé et qui ne fonctionne pas?
Bonne question. Je dirais, au moment que tu dois dépenser un dollar, parce que là, on parlait de gifting, c'est tel que tel, tu sais, le coût, la barrière à l'entrée est très minime. Par contre, on a eu quand même quelques fails majeurs au fil du temps, mais pour des plus grosses pointures. Donc, on a souvent écrit à des influenceurs, peu importe au Canada, aux États-Unis, qui semblent avoir une belle communauté, qui ont un super bon engagement, mais qui n'ont jamais travaillé avec nous. Puis, habituellement, quand tu connais pas la personne puis que tu n'as jamais travaillé avec elle préalablement, ben, y a aucun lien de confiance entre cette personne-là et nous. Puis, souvent, ça devient une collaboration plus transactionnelle que humaine. Puis c'est à ce moment-là qu'on voit que ça fonctionne zéro. T'sais, nous, quand on rentre quelqu'un comme affilié ou comme collaborateur exclusif, créer leur design, ben on s'attend à avoir déjà travaillé peut-être une, deux, trois fois avec elle auparavant, puis vraiment s'assurer du fit qu'on a avec elle. Parce qu'il y en a des fois que c'est triste à dire, mais c'est plutôt des panneaux publicitaires. Ils vont mettre de l'avant 5, 6, 7 marques dans la même journée. Donc, leurs communautés sont pas vraiment attirées à pouvoir tester un de ces produits-là. Puis, ça fait pas très authentique non plus dans leur façon de parler ou juste de montrer les produits. T'sais, nous, on vise pas un placement publicitaire. On vise une utilisation qui est le plus authentique possible. Donc, je dirais, c'est peut-être le warning que j'aurais pour les gens qui visent des fois des gros noms, des grosses bases d'abonnés, mais gros influenceur ne veut pas nécessairement dire gros résultats non plus. Fait que ça, c'est un pensez-y bien quand vous êtes à un moment que vous voulez déplier peut-être un 1000 à 5000 $ pour un influenceur. Ben, c'est important de mettre son pied à terre puis de demander aussi des statistiques liées à leur contenu. Souvent, ces gens-là vont pouvoir te donner les stats autant de leur des vues qu'ils peuvent avoir sur les stories ou bien des interactions qu'ils ont sur leurs posts, mais aller un petit peu plus loin dans la discussion puis demander, avez-vous déjà travaillé avec des brands e-commerce? Si oui, à quoi ressemblaient les résultats? Puis souvent, ça nous permet de déceler justement qui sont les professionnels et qui le sont moins.
William Giroux, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast Commercialite aujourd'hui. Je pense que les gens qui nous écoutent vont prendre des notes sur la stratégie de marketing d'influence de CaseMe parce que clairement, vous êtes des gens qui... Vous avez fait vos preuves avec cette technique-là, donc je suis convaincu que tes conseils aujourd'hui, William, vont aider beaucoup de nos auditeurs, donc je te remercie. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commercialite.